Père éternel, nous désirons encore une fois ce matin nous tourner vers toi, nous tourner vers ta parole, celle qui touche nos vies, nos cœurs, et toi, ton Fils, qui nous donne la capacité de changer. Tu vois que par nos propres moyens, nous ne sommes pas capables, mais toi, tu nous donnes la capacité. Prions que ta parole puisse toucher nos cœurs. Et que tu puisses être avec nous une nouvelle fois. Que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Cette semaine, j'ai posté une offre de stage à la faculté de Toulouse 1, en droit des affaires. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert comptable. Donc de temps en temps, j'ai besoin de stagiaires ou de personnes que je souhaite former. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réceptionné de nombreux CV et lettres de motivation. Et j'ai même trouvé une personne qui pouvait satisfaire au poste. Qu'en est-il aujourd'hui dans notre église ce matin au 101 rue Bonnat? Car je viens de recevoir, cette fois-ci, non pas une offre de stage, mais une offre d'emploi particulière d'un auteur du Nouveau Testament, le moins étudié. Étienne, pourrais-tu nous faire parvenir l'offre d'emploi qui a été postée sur le tableau aujourd'hui? Merci beaucoup, Étienne. En effet, cette offre d'emploi n'est guère attractive et je comprends qu'elle ne donne pas trop envie. En plus, cet auteur du Nouveau Testament qui nous la propose n'avait même pas l'intention de rédiger cette offre. Mais il en a été obligé au vu de la situation de l'Église à laquelle il écrit. D'après vous, de quelle offre d'emploi s'agit-il ? Et de quel auteur du Nouveau Testament je parle? Ça va être difficile. C'est une lettre, qui est fort peu étudiée et la plus petite du Nouveau Testament. Jude, effectivement. Et l'offre d'emploi est particulière. La recherche de gladiateurs de la foi. Je vous invite à lire avec moi Jude 1, 1 à 4. Jude, donc c'est juste avant l'Apocalypse. Jude 1 à 4. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ce que Dieu a appelé, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi. La nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul maître. Je ne sais pas si vous connaissez Jude, mais c'est un ponte du 1er siècle. Il se présente pourtant seulement comme le serviteur de Jésus-Christ et le frère de Jacques. Il ne veut donner d'autorité en lui-même à son écrit, par son nom. Toutefois, il est en droit d'écrire, car il est le frère de Jacques, le demi-frère du Seigneur, qui est l'un des responsables de l'Église de Jérusalem. Jude est humble, car il aurait pu s'appeler le frère du Seigneur, mais il ne l'a pas fait. Jude écrit cette lettre à destination des chrétiens de cette église pour les mettre en garde contre une infiltration de l'église par des hommes condamnés par Dieu depuis longtemps et qui colportent des erreurs sur la façon de vivre la vie chrétienne et sur la relation à Jésus. Jude leur demande donc, et fait le but de sa lettre, de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Jude demande d'être aux croyants fidèles, d'être des gladiateurs de la foi, à savoir des combattants aguerris pour leur foi. C'est pour cela qu'il nous donne ce matin cette offre d'emploi. Trois questions dirigeront ce message. Sommes-nous qualifiés pour répondre à cette offre d'emploi? Est-ce que cela vaut la peine de répondre à cette offre? Et qu'est-ce que nous risquons? Je vous invite à relire avec moi les versets 1 et 2. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Jude aurait pu commencer sa lettre par une liste de qualificatifs nécessaires à un gladiateur pour que celui-ci puisse être efficace. En effet, les gladiateurs étaient des combattants professionnels. Ils avaient le statut d'esclaves, mais s'engageaient volontairement. Et leur préparation devait être longue et sans faille. Pourtant, Jude ne semble pas se soucier des conditions nécessaires à la qualification du gladiateur. Ou plus exactement, il s'en soucie, mais il ne place pas sur les gladiateurs de la foi que nous devons être un quelconque poids. Il ne nous charge pas d'une liste exhaustive de choses à faire pour être des gladiateurs de la foi. Combien nous entendons parfois des messages où il faut faire telle ou telle chose pour avoir accès à telle ou telle autre? Combien de fois j'ai moi-même conditionné la réussite de ma vie chrétienne à des pratiques ou à des exigences qui permettraient que ces pratiques aient de l'effet? Combien de fois, naturellement, nous désirons par nos propres forces nous qualifier? Graham Goldsworthy a écrit dans son ouvrage « Christ au centre de la prédication » et dans une sous-section « Sans l'évangile, l'exhortation devient légaliste » écrit la chose suivante. « Les prédicateurs doivent veiller au style d'exhortation qu'ils emploient. Le prédicateur peut nourrir la tendance légaliste qui est au cœur du péché qui nous habite. Il lui suffit de mettre en valeur notre humanité, notre obéissance, notre fidélité, notre soumission à Dieu, et ainsi de suite. Toutes ces choses sont des vérités bibliques, mais extraites de leur contexte et formulées indépendantes de l'évangile de la grâce, elles substituent la loi à la grâce. Si nous répétons constamment aux auditeurs ce qu'ils doivent faire pour mettre leur vie en ordre, nous leur transmettons un terrible fardeau légaliste. Combien de fois, naturellement, nous désirons par nos propres forces nous qualifier? Mais cela n'est pas possible. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Et Jude non plus. C'est Dieu lui-même qui nous qualifie. Si vous entendez « tu dois faire cela pour obtenir cela avec Dieu », les gens qui vous enseignent cela sont prêts de tomber dans le légalisme et n'enseignent pas l'évangile. La vie avec Dieu n'est pas du donnant-donnant. Non, la vie avec Dieu, c'est Dieu qui nous qualifie sans que nous ayons rien à faire. La vie avec Dieu, ce n'est pas le légalisme, c'est le don complet, sans aucun retour. C'est un cadeau offert qui n'attend aucun retour. Jude l'exprime très bien, démarrant sa lettre, ô combien polémique. Il dit aux chrétiens, « Votre foi vous qualifie pour être ces gladiateurs de la foi, et c'est Dieu qui en est à l'origine. » Que Dieu les a appelés, nous dit Jude, que Dieu les a aimés, que Dieu les a gardés. Le temps des verbes est à la voix passive, et une nouvelle fois, cela montre l'action de Dieu et non la nôtre. Vous attendez peut-être de savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, Dieu l'a fait. Vous ne pouvez plus rien faire. Une fois de plus, nous n'y sommes pour rien. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, et au bénéfice du salut de Jésus-Christ, c'est grâce au dessein merveilleux de Dieu. Le choix de suivre Christ n'est pas à notre bénéfice. Le choix d'être les enfants bien-aimés, aimés, nous dit le texte, de Dieu n'est pas à notre bénéfice. Le fait d'être gardé par Dieu n'est pas à notre bénéfice. Le chrétien doit être en sécurité dans l'amour et préservé par son élection en Dieu, nous dit le texte. Le salut a ses origines dans le cœur de Dieu et non dans la volonté de l'homme. Ça, c'est le vrai évangile de la grâce. C'est un cadeau immense, une qualification énorme pour les gladiateurs de la foi que Jude attend de voir à l'œuvre. Nos qualifications ne viennent pas de nos efforts, mais de Dieu lui-même. Tous les chrétiens sont donc qualifiés par Dieu pour le combat dans l'arène, pour le combat de la foi que va leur présenter Jude. Je me rappelle un jeune avec qui je lis la Bible depuis peu, qui me disait qu'il n'arrivait pas à étudier la Bible car il ne devait pas être rempli du Saint-Esprit pendant qu'il faisait son étude. Peut-être que cette information est vraie. Pourtant, j'aimerais vous redire que Dieu nous a qualifiés parce que nous sommes ses enfants bien-aimés et nous sommes gardés par lui. Notre foi nous qualifie donc pour être ses gladiateurs de la foi. Toutefois, si cette qualification nous donne une sécurité de l'issue du combat, celle-ci ne doit pas nous autosatisfaire et nous laisser tomber dans un état semi-comateux ou léthargique. Un chrétien qui se reposerait sur cette qualification pour vivre une vie assoupie risque bien d'être un faux. Car partout où la sécurité promise par Dieu est utilisée pour justifier sa léthargie, on peut soupçonner qu'il y a un traître parmi nous, dans nos rangs, dit John Piper. En effet, nous sommes appelés à être des gladiateurs de la foi. Nous sommes qualifiés par Dieu pour cette tâche, mais est-ce que cela en vaut la chandelle? Oui, cela vaut la peine. L'enjeu en vaut la chandelle, car c'est de votre position, c'est de notre position en Christ qu'il est question. C'est de notre salut qu'il est question. Et c'est en cela que la foi est donc le trésor du gladiateur. Je vous invite à relire avec moi ce que nous dit Jude au verset 3. « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. » La foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Au départ, Jude n'avait pas l'intention d'écrire cette lettre si vigoureuse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il écrit « J'avais le désir de vous écrire au sujet du salut. » Mais avait plutôt l'intention d'écrire une lettre douce. Cette lettre n'était donc pas prévue, mais il a changé ses plans devant la nécessité. Cette lettre de Jude nous recommande d'être des gladiateurs de la foi, car notre trésor est en jeu, à savoir notre foi. Et notamment la foi qui a été transmise, nous dit le texte, une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Nous avons parlé de la foi depuis le début de ce message, mais de quoi s'agit-il exactement ? Le mot « foi » est parfois utilisé pour le sentiment de confiance que nous avons dans le Christ. Mais ici, le mot foi indique autre chose. Il indique la vérité que nous croyons à propos de celui en qui nous avons confiance. La vérité que nous croyons à propos de celui en qui nous avons confiance. Cette foi est donc l'ensemble du corps de doctrine qui fait le centre de notre croyance. Mais est-ce que cela est suffisant ? Non. S'agit-il seulement d'une croyance intellectuelle ? La foi ne prend vie que lorsque l'ensemble de la doctrine que nous avons acceptée nous ouvre la porte de la relation avec Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Car la foi en Christ est avant tout une relation avec Jésus, plutôt qu'un ensemble d'idées sur Jésus. D'ailleurs, le diable connaît par exemple la plupart des vérités bibliques au sujet de Jésus. Il n'en demeure pas moins opposé à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Mais un des points clés de cette foi est qu'elle a été transmise une fois pour toutes et sous-entendue par les apôtres. Il est intéressant de voir, de constater que depuis l'annonce de cet évangile, beaucoup de nouvelles révélations sont apparues. Et je n'en citerai que deux. Joseph Smith naît le 23 décembre 1805 aux États-Unis. En 1823, une lumière éclatante remplit sa chambre. L'ange Moroni lui apparaît, l'engageant à chercher des objets mystérieux, des plaques d'or, deux pierres précieuses, l'ourim et le toumim, et le pectoral. 4 ans plus tard, après de laborieuses recherches, les objets sont trouvés. Les plaques d'or rédigées en égyptien ancien sont traduites. Et cela devient le livre des Mormons. Ellen White, fondatrice de l'église adventiste du septième jour, a écrit 71 livres, 4500 articles, plus de 1000 lettres, pour un total de 4500 pages. De ses écrits, elle dit « Il y a une ligne de vérité toute droite, sans la moindre formule hérétique dans tout ce que j'ai écrit. » Revue Adventiste, avril 83. Et on rencontre tous les jours de nouvelles personnes qui considèrent que les nouvelles idées contemporaines peuvent constituer un substitut approprié pour la Bible et la foi en Jésus-Christ. Pourtant, Jude nous indique que nous devons nous battre pour la foi qui a été enseignée une fois pour toutes par les apôtres. Il n'y a donc plus aucune place pour une révélation supplémentaire. C'est d'ailleurs pour cela que l'Église du 3e et du 4e siècle a reconnu que Dieu avait parlé une fois pour toutes dans ses écrits et qu'un recueil de tous les livres écrits sur cette foi pouvait être compilé. De cette foi enseignée, une fois pour toutes, nous avons désormais un livre qui s'appelle la Bible et qui doit être l'objet de notre combat le plus farouche. Nous devons être des gladiateurs de la foi. Car la Bible, la vérité révélée une fois pour toutes, est l'objet d'attaque. Elle est notre trésor qu'il convient de combattre à tout prix. Un des plus grands combats que nous, les gladiateurs, nous devons mener est le combat de l'étude de cette Bible. En effet, l'étude de la Bible n'est pas réservée aux pasteurs ni aux professeurs de théologie. Non, Jude s'adresse à tous les croyants. Si nous voulons la défendre, il faut la connaître. Si nous essayons de défendre quelque chose que nous connaissons mal, je crains que nous allions vite être mis au tapis. Mais ce n'est pas tout. Cette connaissance de l'écriture de la Bible ne peut s'en tenir qu'à une connaissance intellectuelle. Elle doit s'incarner et se vivre dans la relation personnelle avec le Seigneur. C'est à travers elle que Dieu nous a permis de jouir des enseignements du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas reliés à Dieu, nous pouvons tout connaître sans rien comprendre. Non, que nous puissions y arriver par nous-mêmes. Revenons à Jésus pour qu'il nous donne la joie de l'étude de sa parole et qu'il nous donne la capacité de la mettre en pratique. On sent que le combat est important et qu'il nécessite une unité claire et précise sur le fondement de notre foi. Nous pouvons ne pas être d'accord sur le style de musique, la forme de la louange, les méthodes d'évangélisation, mais nous ne pouvons pas remettre en cause les vérités fondamentales enseignées dans la parole de Dieu. Nous nous battons souvent pour suivre tel ou tel courant de pensée sur tel ou tel autre point de détail. Pourtant, pourquoi ne nous regroupons pas parfois pour faire valoir notre unité autour du centre de l'Évangile, à savoir Jésus-Christ. Notre foi est malheureusement attaquée très fortement. Les fondements de la foi semblent remis en cause. Devant cela, sommes-nous prêts à montrer les crocs? La foi que nous avons aujourd'hui a été préservée par le sang des martyrs de centaines de réformateurs. De 1555 à 1558, le souverain catholique en Angleterre comptait 288 réformateurs protestants brûlés à son compte. Et pourquoi ont-ils été brûlés? Parce qu'ils soutenaient la vérité que la présence réelle du corps de Jésus n'était pas dans l'Eucharistie, mais dans les cieux, à la droite du Père. Pour la vérité, ils ont enduré la douleur atroce de la mort sur le bûcher. Le sang des martyrs nous montre combien notre foi vaut la peine d'être combattue. En effet, Jude nous rappelle qu'il souhaitait nous parler du salut qui était commun. Pourtant, il a préféré nous alerter pour le combat de notre foi. Pour Jude, lorsque la foi est en jeu, notre salut est aussi en jeu. Si la vérité est perdue, le salut est perdu. C'est d'ailleurs pour cela que les apôtres et les réformateurs étaient prêts à mourir pour leur foi. L'intégrité du message du salut devrait être préservée à tout prix pour la gloire de Dieu et pour le salut du plus grand nombre. Mais que pensons-nous aujourd'hui de cette nécessité du combat pour la foi au XXIe siècle en France? Samuel, franchement, j'ai l'impression que ce que tu me racontes est complètement dépassé, hein. On ne se bat plus maintenant pour des idées. C'est fini, ça, ce temps-là. Au contraire, notre société postmoderne est tolérante. Et je n'ai pas peur de défendre ma foi, puisque celle-ci fait partie des options que l'on peut accepter. Même si je ne pourrais faire le même message à des chrétiens iraniens ou arabes saoudiens, ou dans d'autres pays qui, eux, doivent mourir pour leur foi, le combat pour nous est complètement différent. Et pourtant, il n'a pas changé de nature. Nous avons encore et toujours à combattre pour la vérité de l'Évangile et son caractère exclusif. Notre société, comme d'ailleurs le Dalai Lama le disait, nous invite à faire notre supermarché avec toutes les religions. Et nous invite à la tolérance envers toutes les religions. Mais avec une tolérance particulière, une tolérance légèrement dictatoriale, qui indique que la vérité n'est pas accessible et que personne ne peut être sûr de sa vérité. Et que partant de là, aucune religion ne peut prétendre à avoir la vérité exclusive, car cela reviendrait à une tolérance manifeste. Il n'est à n'en pas douter l'une des plus grandes méprises du mot tolérance. La tolérance supporte les autres idées, même si celles-ci sont différentes, tandis que la société, au nom de la tolérance, impose ses propres idées, ses propres valeurs. Nous devons aujourd'hui combattre là où nous sommes contre cette vérité imposée par la société, à savoir qu'il n'y a pas de vérité. Non, nous devons porter haut notre foi qui place en Jésus le seul chemin vers Dieu. Que cela plaise ou non, si nous commençons à renier cela, notre foi est perdue et le salut est perdu aussi. Nous sommes invités à combattre pour l'exclusivité de la foi chrétienne. Non parce que celle-ci nous ferait du bien, mais parce que Jésus présente cela comme la vérité. Soit il a tort, il est fou, soit il a raison, et nous devons prendre au sérieux ce qu'il dit. Voilà la foi que nous devons combattre à tout prix. Mais serions-nous de ces combattants? C'est ce que Jude nous pousse à être. C'est aussi cela le combat pour la foi. C'est aussi ce combat qui permettra la mise en évidence des fossoyeurs. Le combat en vaut la chandelle, car elle touche à notre foi, à savoir au cœur de notre nouvelle identité de chrétien. C'est donc le plus précieux trésor qui mérite le combat de notre vie. Mais qu'est-ce que nous risquons? Jude nous met en garde contre d'autres gladiateurs, Cela ne combatte pas pour, mais contre la foi. Je vous invite à revenir avec moi sur le texte, verset 4. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu, la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. C'est intéressant ce que Jude est en train de nous montrer. On vilipende souvent le monde extérieur pour nous détourner de la foi. Et Jude nous montre autre chose. C'est fou. L'Église à qui Jude parle s'est vue infiltrée par des faux chrétiens, des faux enseignants, des faux pasteurs qui enseignent une nouvelle vérité, un nouvel enseignement. La menace est telle que Jude, qui voulait écrire une lettre tranquille, finit par une lettre avec des gros warnings et qui exige une réponse de combat contre ces infiltrés. Cette attaque ressemble aux maladies auto-immunes. Dans ce type de maladie, les anticorps qui sont normalement censés protéger les organes, les tissus ou les bactéries se mettent à attaquer les mêmes choses qu'elles devaient protéger. Et il est très dur de lutter contre eux, car on ne sait pas qui on attaque. En les tuant, on risque de tuer aussi les bonnes. Ainsi, une attaque de l'intérieur et une attaque des soi-disant chrétiens, nous montre Jude. Leur attitude est des plus sournoises, comme l'indique le texte. Ils se sont infiltrés. Il est parfois difficile de discerner les faux enseignements. Ils ont toute l'apparence de chrétiens, pourtant leur enseignement et leur comportement trahissent leur vraie appartenance. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Le combat est bien présent. Et là, pour centre encore et toujours la grâce de Dieu et une bonne vision de celle-ci. Nous avons vu au début l'importance de notre place en Dieu et de notre privilège, non encore une fois à cause d'une quelconque œuvre, mais grâce uniquement à Dieu. Maintenant, nous voyons un autre problème se profiler, ô combien différent, et tout simplement à l'autre extrême. Cette fois-ci, Jude nous met en garde contre une mauvaise compréhension de la grâce. La grâce n'est pas le laxisme et la débauche ou une vie complètement débridée où on laisse libre cours à tous nos instincts. Non, qu'il y ait une échelle de péché et des péchés plus grands que les autres. Toutefois, ces chrétiens ne considéraient pas leur agissement comme un péché, mais au contraire. Et si on imaginait une personne qui vit aujourd'hui dans la débauche et qui se complaindrait dans cette situation, et même qui donnerait à cet acte une valeur et la justifierait devant Dieu. Leur considération de Dieu semble très faible. Et une fois de plus, cela marque leur méconnaissance de celui-ci. Plus nous nous éloignons de la considération que Dieu est saint, plus nous sommes enclins à faire le péché. Notre connaissance de Dieu et notre respect pour lui aura des effets immanquablement sur notre comportement et nous essayerons de justifier notre comportement. Notre connaissance de Dieu et notre respect pour lui aura des effets immanquablement sur notre comportement. Et nous essaierons toujours de justifier notre comportement. C'est exactement l'attitude des faux enseignants dans l'Église. N'ayant aucune considération envers Dieu, leur vie est marquée par le péché, sans que celui-ci occasionne une quelconque gêne. Et Jude conclut qu'en cela, il renie notre seul Maître, Jésus. La foi que nous professons n'est pas une foi qui se satisferait des beaux discours et d'actes différents. Non, la foi est un engagement total de notre volonté pour avoir le désir de faire Seigneur et Maître le Christ. Non que nous ne péchions plus, mais que notre comportement, lorsque celui-ci est répréhensible, nous affecte au plus profond de nous-mêmes et nous invite à un changement et à une demande de pardon envers Dieu. Mes bien-aimés, dirait Jude, des personnes se sont infiltrées dans l'Église qui n'ont aucun respect pour Dieu, qui transforment la grâce en laxisme et qui renient le centre de la foi, à savoir la seigneurie de Christ. Nous devons être ces combattants loyaux à notre Seigneur et à cette foi, et combattre ces autres gladiateurs qui minimisent le péché et qui le justifient. Jude nous encourage et nous montre que nous sommes qualifiés par Dieu de manière magnifique quand nous sommes en lui. Cela étant, cela ne doit pas nous satisfaire d'une position de vainqueur potentiel. Nous ne pouvons nous endormir. Au contraire, nous devons être vigilants. C'est là la sonnerie de la trompette de Jude. En effet, l'offre d'emploi de Jude est là. Recherche de gladiateurs pour la foi. La foi risque toutes les attaques. On essaye toujours d'attaquer son centre, à savoir Jésus-Christ comme sauveur et maître. On essaye toujours de transformer cette grâce en légalisme ou en laxisme. Dieu et Jude recherchent des gladiateurs qui s'attachent à leur trésor. La foi, celle qui a été annoncée une fois pour toutes aux saints, la foi qui est à la source de leur salut, la foi qui garde la vérité coûte que coûte, même si c'est au péril de sa vie. Des attaques viennent de l'intérieur de l'Église, de faux croyants qui minimisent le poids du péché et ainsi de la grâce de Dieu. Nous sommes tous des gladiateurs surentraînés par notre Maître. La foi est la qualification du gladiateur. Notre salut est en jeu. La foi est le trésor du gladiateur. Elle fait l'objet d'attaques de l'intérieur de l'Église. La foi est la cible des autres gladiateurs. Sommes-nous prêts à être des gladiateurs féroces pour notre foi? À nous de choisir. À nous seuls. Je vous invite à prier. Père éternel, tu vois que naturellement nous désirons nous qualifier nous-mêmes ou justifier notre comportement de péché. Père, je te demande pardon. Parce que tu vois que sans toi, tout seul, nous sommes incapables. Incapables d'être ces gladiateurs, ces défenseurs de la foi. Ces personnes qui s'attachent à leur centre avec fidélité. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et ce matin, une nouvelle fois, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu nous gardes, tu nous aimes. Tu nous as choisis. Et c'est en ça que nous pouvons nous reposer pour être ces combattants, ces gladiateurs, là où tu nous veux, là où tu nous as placés, parmi nos amis, partout, dans l'Église, pour défendre la foi sainte, pure, celle qui a pour centre la grâce de Dieu et son Fils Jésus-Christ. Amen.